Bonjour à tous, bienvenue dans 7 jours dans le monde. Retour sur l'actu internationale de la semaine qui nous emmènera à Pyongyang, la Corée du Nord qui tire 4 missiles. Séoul, la capitale du Sud qui dans la foulée accueille un bouclier antimissile américain. Istanbul, en plein meeting, le président Erdogan accuse l'Allemagne de pratiques nazies. Et puis Mossoul, où l'État islamique continue de reculer. C'est parti pour 7 jours dans le monde.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et avec Frédéric Ancel qui nous accompagne donc dans 7 jours dans le monde. Bonjour Frédéric.
Bonjour Fabrice.
Professeur de relations internationales à Paris Business School, à Sciences Po Paris. Et on le rappelle, hein, géopolitique de la nation France avec Yves Lacoste, Philippe Moreau-Desfarge. Bonjour Philippe.
Bonjour Fabrice.
Chercheur à l'IFRI, auteur notamment, mais là la bibliothèque, elle n'est pas assez grande, la géopolitique pour les nuls en livre de poche. Alors, on va démarrer. L'événement, il a été encore une fois médiatisé par la télé nord-coréenne, le tir lundi de 4 missiles balistiques. Hein. Les engins, ils ont parcouru 1000 km environ et 3 d'entre eux ont fini leur course près du Japon. Je cite, le soleil du 21e siècle. Oui, c'est le surnom de Kim Jong-un, tout sourire assistant au tir. Les 4 missiles balistiques lancés simultanément étaient si précis qu'ils ressemblaient à des avions faisant des acrobaties en formation. Oui, Pyongyang l'a dit, ces tirs de missiles étaient un entraînement pour frapper les bases américaines au Japon. Condamnation de l'ONU, condamnation du Japon. Ce que disait ce responsable de l'exécutif japonais, notre pays ne peut en aucun cas tolérer ce type d'action répétée de la part de la Corée du Nord. Alors, des tirs survenus au moment où Séoul et Washington procédaient à des exercices militaires conjoints, les États-Unis dans la foulée annonçaient le déploiement d'un bouclier antimissile THAAD en Corée du Sud, je vous le disais il y a un instant. Frédéric Ancel, à propos de ces manœuvres sud-coréennes, américaines, Pyongyang prétend que c'est une répétition générale d'une invasion de leur territoire et ils en ont profité pour tirer ces 4 missiles. C'est une bonne raison? C'est la seule raison?
C'est surtout une posture. Et je pense que c'est même une posture à usage interne. À peu près toutes les dictatures dans l'histoire des nations procèdent de la même manière. On est agressif vis-à-vis de l'extérieur, en réalité surtout pour démontrer à sa propre population qui le plus souvent a faim, et c'est le cas en Corée du Nord, a froid, manque d'équipement, et c'est le cas effectivement aussi en Corée du Nord, pour lui donner en quelque sorte à manger du nationalisme, du prestige, du muscle, plutôt que le ventre plein. Et c'est comme ça surtout que j'envisage ces mouvements très répétés, hein, ces provocations répétées de la Corée du Nord, pas depuis hier, depuis des décennies.
Deux essais nucléaires en 2016, des tirs de missiles en février, là à nouveau en mars. Oui Philippe.
Je crois qu'il y a peut-être un paramètre supplémentaire, c'est qu'il y a probablement une lutte de pouvoir extrêmement dure au sommet. Kim Jong-un se sent probablement menacé, vous avez vu qu'il a assassiné son demi-frère, et là il provoque pour montrer, comme l'a dit Frédéric Ancel, à sa population qu'il est prêt à aller très loin, mais là il y a une véritable provocation, et il y a une provocation probablement à l'égard de la Chine. Et au fond, Pyongyang dit à Pékin, tu n'oseras pas me renverser, tu n'oseras pas toucher.
On va y revenir, très intéressant ce qui va se passer du côté de la Chine. Oui, je le disais, la Corée du Nord, elle a dans son viseur le Japon, les bases américaines au Japon, tout ça, ça a été assumé, revendiqué, voire la côte pacifique américaine. La Corée du Nord, elle se donne de plus en plus les moyens justement pour atteindre ses cibles. On a l'impression qu'elle progresse quand même à chaque fois. Frédéric Ancel.
Sur le plan technique, il est à peu près évident qu'elle progresse. Et ça depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Le tout est de savoir quelle est la position fondamentale de la Chine. Et je suis de ceux qui considèrent que la position de la Chine, je pense qu'on va y revenir, elle est pragmatique et raisonnable. Et on a bien vu que des sanctions, pourtant entre alliés, rappelle que la Chine et la Corée du Nord sont alliés.
Normalement.
Absolument, très officiellement.
De moins en moins, mais bon.
Ouais. Alors voilà, c'est ça. Donc il y a des bisbilles, notamment liées à ces provocations balistiques. Et là, tout dépend de la Chine. La Corée du Nord ne peut en aucun cas se passer de l'alliance chinoise.
On parle de sanctions quand même régulièrement. Il y a des sanctions qui sont décidées par l'ONU contre la Corée du Nord. Qui reste sans effet. Autant ça avait porté contre l'Iran à une époque, autant là, c'est comme un coup d'épée dans l'eau, quoi, Philippe Moreau-Desfarge.
Elle reste relativement sans effet. Pourquoi? Parce que d'abord, la Corée du Nord est tellement pauvre que, pour que les sanctions soient efficaces, il faut que l'économie soit à peu près intégrée dans le système économique international. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est le comportement de la Chine. C'est que, comme l'a dit Frédéric Ancel, en fait, il y a une valve de sécurité avec la Corée du Nord. C'est la frontière entre la Corée du Nord et la Chine, qui est une frontière ouverte. Et au fond, la population disons, arrive à survivre grâce à cette frontière ouverte. Alors, la dernière question, c'est que la Chine, je pense qu'il y a une préoccupation en Chine, ne pas être conduite à intervenir en Corée du Nord, car la Corée du Nord est peut-être au bord de l'implosion, et c'est ce qui fait peur à tout le monde,
Juste avant qu'on parle de la Chine quand même, les États-Unis, très intéressant quand même, je le disais, dans la foulée, hein, donc ils ont décidé de déployer ce THAAD, c'est un bouclier donc antimissile en Corée du Nord. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est suffisant pour défendre la Corée du Sud, Frédéric Ancel?
Militairement, c'est utile. D'ailleurs, ce bouclier a fait ses preuves avec des missiles beaucoup plus petits. Hein. Évidemment, en Israël,
face au Hamas. Il y a deux ans notamment.
Hein, voilà. Et là, on est sur l'un des avatars de la fameuse guerre des étoiles. Donc, ça, c'est quelque chose qui, effectivement, est utile, qui fonctionne bien. Mais je pense qu'au-delà de ça, il va falloir mesurer la crédibilité que va donner le nouveau président américain aux États-Unis dans la région. Et le Japon, dont on a vu il y a un instant qu'il s'inquiète à juste titre de l'agressivité balistique nord-coréenne, le Japon va, me semble-t-il, déterminer sa géostratégie des prochaines décennies en fonction de l'assurance que les Américains vont maintenir ou pas à défendre, pas seulement le Japon, mais pratiquement toute la région.
Bien entendu, Philippe Moreau-Desforges.
Donc, Trump connaît une première épreuve de vérité. C'est-à-dire, Trump, c'est quand même une politique de repli, de renfermement des États-Unis sur leur propre territoire, et là, il se trouve devant une situation où il doit jouer son rôle de protecteur de l'Extrême-Orient.
Et vous avez complètement raison, puisque c'est la presse américaine qui le rapportait donc en début de semaine. Barack Obama avait, semble-t-il, prévenu Donald Trump au moment où il s'était parlé, au moment de la transmission des pouvoirs, en disant « Attention, la Corée du Nord, c'est un dossier urgent à traiter hein. ». Qu'est-ce que peut envisager le nouveau président américain contre la Corée du Nord? Est-ce que l'option d'une action militaire, d'une offensive militaire, est-ce que c'est exclu ou pas?
Je pense que c'est totalement exclu. Parce que le dossier nord-coréen, c'est la Chine. C'est avant tout la Chine. On ne peut pas intervenir contre un État qui reste, malgré tout, un allié de cette grande puissance régionale au moins qui est la Chine.
Frapper la Corée du Nord, une action militaire, ça veut dire frapper la Corée du Nord, bombarder la Corée du Nord, ce qui serait une action folle.
Débarquer ou je ne sais pas.
Ces actions militaires ne sont pas possibles. Donc la seule démarche, et là Trump va se trouver devant un nouveau défi, c'est un dialogue avec la Chine. Car c'est la Chine qui tient la clé par sa puissance, et je rappelle, par la contiguïté territoriale. La contiguïté territoriale et la frontière entre la Chine et la Corée du Nord, c'est la valve de sécurité, la valve de survie de la Corée du Nord.
Parce que c'est vrai qu'il peut continuer à déployer des boucliers antimissiles en Corée du Sud, au Japon, par exemple, en Alaska, en Californie, pourquoi pas également. Tiens, est-ce qu'il pourrait se livrer aussi, on en reparlera tout à l'heure, à propos des révélations concernant la CIA, à des cyberattaques contre le programme de missiles nord-coréen? Barack Obama, il l'avait envisagé il y a 3 ans, Frédéric Ancel.
Oui, les Américains en ont la capacité. Oui. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont la capacité de faire ça, ils ont la capacité d'utiliser des drones, soit au titre d'espion, soit en guise de frappe. Mais là, je suis d'accord avec ce que vient de dire Philippe, c'est hors de question de frapper militairement. Enfin, si les États-Unis, si vous voulez, je vais vous répondre par une autre question. Si les États-Unis aujourd'hui ne sont pas capables de provoquer de véritables dégâts technologiques sur l'informatique militaire nord-coréenne.
Alors c'est la fin de tout. Contre qui pourrait-il le faire? Certains disent aussi qu'il pourrait s'en prendre aux banques, aux grandes entreprises chinoises qui commercent ou qui permettent le commerce avec la Corée du Nord. On revient sur la question des sanctions.
Là, c'est à s'attaquer à la Chine. Hein. Ça veut dire que Trump se met dans une... Enfin, les États-Unis de Trump se mettent dans une politique agressive à l'égard de la Chine. Ils vont être obligés de faire très attention. Hein. La Chine, maintenant, veut être légale des États-Unis. Donc, la partie, c'est un bras de fer beaucoup plus vite. Non, je pense que les États-Unis seront obligés d'être relativement prudents sur ce terrain-là.
Frédéric Ancel.
Je note d'ailleurs que la menace du candidat Trump, qui l'a brandi en permanence pendant toute la campagne, à savoir taxer à 45%. À hauteur de 45% les produits chinois.
Tu penses
lui, en tout cas, il ne pense plus. Parce que sinon, les rétorsions, notamment en termes de bons du Trésor américain, seraient extrêmement coûteuses.
La Chine, elle a condamné le déploiement du bouclier antimissile. Elle s'en est même pris donc à des géants sud-coréens comme Lotte, c'est un groupe hôtelier, un groupe de loisirs, qui avait eu la bonne ou la mauvaise idée, peu importe, de céder un terrain de golf pour accueillir ce bouclier antimissile américain. Rétorsion contre le tourisme chinois en Corée du Sud. La moitié des touristes qui viennent en Corée du Sud sont des Chinois. Ouais. Pourquoi ça gêne la Chine, Frédéric Ancel, que les États-Unis installent un bouclier antimissile en Corée du Sud?
Parce que la représentation géostratégique de la Chine dans cette région, c'est que ça lui appartient. Je veux dire, en tout cas, l'influence doit être chinoise. Or, aujourd'hui, lorsque vous regardez l'état des forces, avec notamment la 7e flotte américaine qui est excessivement puissante, évidemment,
plus des Américains, au Japon, plus en Corée du Sud,
Japon, plus, et j'ajoute, des États qui vont devenir de plus en plus, qui vont se rapprocher des États-Unis au regard de la crainte qu'ils ont de la Chine. Et je pense notamment à un État qui, pour le coup, n'est pas rancunier, qui est le Vietnam, qui se rapproche et qui sera vraisemblablement un futur dragon sur le plan économique.
Malgré les tiraillements entre la Chine et le Vietnam, toujours sur ces petits îlots contestés en mer de Chine du Sud.
Justement, à cause de ces tiraillements-là, je parle bien du rapprochement du Vietnam vis-à-vis des États-Unis.
Ah, des États-Unis.
Des États-Unis. D'accord.
Pas rancunier. Pardon.
Et j'ajoute que les Philippines, en revanche, on l'a vu avec ce nouveau président très trumpiste, c'est le moins que vous puissiez dire, lui s'est rapproché de la Chine. Donc il y a une vraie concurrence diplomatique dans la région entre la Chine et les États-Unis.
Juste une phrase. Le problème de la Chine, il est très difficile, c'est de maintenir en vie malgré tout la Corée du Nord. Quoi que fasse la Corée du Nord, la Chine veut maintenir en vie la Corée du Nord parce que si ce régime s'écroule, c'est quand même une ouverture vers l'inconnu.
Elle est bien embêtée quand même, la Chine. Oui. Elle est très gênée par ce voisin encombrant qui s'agite, qu'elle ne protège plus comme avant. Elle a condamné, il y a d'ailleurs les tirs de missiles de lundi. Et puis très perturbée aussi par les manœuvres américano-sud-coréennes, justement. Sur quel pied elle peut danser, la Chine, justement?
On est parfois très gêné par ses propres alliés, parce qu'on ne peut bien évidemment pas les lâcher pour la raison qui vient d'être dite. C'est quand même, pour le coup, sur le plan militaire, c'est même le seul allié de la Chine dans la région, sur le plan militaire. Après, sur le plan diplomatique, la Chine a d'autres partenaires. Mais sur le plan militaire, c'est le seul, d'une part. D'autre part, c'est quand même officiellement un pays communiste. La Chine aussi. Ça fait rire tout le monde quand on parle du Parti communiste chinois. Mais bien sûr, sur le plan idéologique, ça veut dire que les Chinois ne sont pas seuls au monde. Parce qu'à part la Corée du Nord, Cuba, qui officiellement encore est un pays communiste, franchement, il n'y en a plus beaucoup. Donc ça, c'est pas négligeable. Et puis, dernier point, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, la Chine doit maintenir à un niveau, j'allais dire, raisonnable, la puissance nord-coréenne, et surtout pas la laisser tomber. Au fond, je vais vous dire, si le régime nord-coréen demain devait s'effondrer, il serait remplacé par quoi? Très vraisemblablement par un régime de type sud-coréen.
Une extension du Sud, bien sûr.
Et ça, pour la Chine, ce serait une perte sèche.
Même si absorber la Corée du Sud, la Corée du Nord, on jouerait dans une autre division que la RFA qui absorbe la RDA il y a une époque, il y a 25 ans. Philippe Moreau-Défort.
La Chine, la Corée du Sud, les États-Unis en font pour le moins intérêt commun, maintenir cette espèce de bizarrerie qu'est la Corée du Nord, de la maintenir, tout en sachant que le château de cartes peut s'écrouler du jour au lendemain. Et à nouveau, je répète que probablement, il y a purement une lutte de pouvoir très dure.
Est-ce que la Chine va se placer un peu plus sur le terrain diplomatique, relancer donc des discussions à 6 avec Corée du Sud, Corée du Nord, Chine, Russie, États-Unis et Japon, bien sûr?
Elle le fait, mais en même temps, elle déploie une force militaire et en particulier maritime qui est tout à fait considérable. Ce qui est d'ailleurs logique. Ne voyons pas ça a priori comme une forme d'agressivité.
On en parlait la semaine dernière, il y a un réarmement du monde et spécialement sur les mers, justement, avec la Chine.
Et
avec réarme des îlots avec la Chine qui construit un deuxième porte-avions, justement. Et le livre blanc de la défense chinoise, c'était cap sur la marine.
Oui, et la Chine met au service de cette diplomatie, qui est assez constructive à certains égards, assez prudente, elle met au service de cette diplomatie une puissance, notamment une puissance maritime, dont elle ne disposait pas, il y a encore quelques années. Donc si vous voulez, c'est quelque chose d'extrêmement logique. Vous ne pouvez pas apparaître comme un géant diplomatique si vous n'avez pas derrière de bâton, en quelque sorte. Regardez le cas du Japon. Et l'économie, d'ailleurs, ne suffit même pas. Donc la Chine, encore une fois, se dote de ce qui va lui permettre d'être crédible sur le plan diplomatique.
Philippe Moreau-Défort, je l'ai frise.
Tout à fait. Simplement, ce qui est derrière ça, il y a une grande question qui se pose. Est-ce que nous ne sommes pas entrés dans une nouvelle course aux armements? Car l'augmentation des dépenses d'armement, c'est d'abord l'Extrême-Orient et la Chine, c'est maintenant aussi les États-Unis. Et en vous écoutant, j'étais obligé de penser aux années précédant la Première Guerre mondiale, où il y a eu une formidable course aux armements, et à un moment donné, ces armements, il faut les utiliser. C'est ça qui est très dangereux.
Frédéric. Et en particulier en Asie. Et regardez à quel point le dossier qu'on est en train de traiter là concerne des titans, concerne des puissances nucléaires, concerne des puissances qui parfois abritent 1,3 milliard, 1,4 milliard de personnes. Je dis bien des puissances car j'irai jusqu'à la crise récurrente, j'allais presque dire permanente depuis 1947, entre deux autres titans que sont l'Inde et le Pakistan. Tout ça, c'est l'Asie centrale et orientale. Et c'est vraiment là, sur le plan géostratégique,
que tout va se passer.
Que ça se passera dans les prochaines années.
Juste à propos de la péninsule coréenne, et c'était une première, donc, dans la nuit de jeudi à vendredi, la présidente Park, présidente sud-coréenne, qui est bel et bien bien destituée par la Cour constitutionnelle à Séoul. Elle était impliquée, vous le savez, on en avait parlé d'ailleurs dans 7 jours dans le monde, dans une gigantesque affaire de corruption mêlant les grands conglomérats sud-coréens au travers d'une amie proche de la présidente. C'est du jamais vu, hein. Il y aura des élections anticipées. J'ai jamais vu qu'une présidente comme ça soit destituée. Philippe Moreau-Desfarges.
Du point de vue de la géopolitique, très intéressant, c'est qu'on voit que la Corée du Sud montre que l'occidentalisation du droit, la diffusion des droits de l'homme, ça marche quand même. Voilà la Corée du Sud, qui était une dictature il y a quelques décennies, maintenant c'est un état de droit, et l'état de droit fonctionne. Simplement, pour la Chine, c'est pas une très bonne nouvelle. Hein, je vous rappelle que cette question de l'état de droit, et c'est très intéressant de voir qu'au moment même, on parle d'un déclin de l'Occident, d'un recul de l'Occident, de constater que la Corée du Sud, pays asiatique, de culture asiatique, est un pays qui, lui, devient un vrai état de droit.
Frédéric Ansel.
Oui, sachant que rien n'étant jamais acquis, il ne faudrait pas que dans un mouvement concomitant, des états d'Occident, eux, basculent dans la dictature. Et malheureusement, rien n'est jamais acquis, et on voit ces derniers mois et ces dernières années que, malheureusement, ça pourrait un jour advenir.
Alors, Frédéric Ansel a raison.
Ouais. Les États-Unis, alors sans aucun lien, bon, les États-Unis, voilà, on en parle, où Donald Trump accuse carrément Barack Obama de l'avoir mis sur écoute au mois d'octobre. Apparemment, le président américain, il s'appuie seulement sur une seule source, un article paru la semaine dernière sur le site de Breitbart News, dirigé jusqu'il y a quelques mois par Steve Bannon, vous savez, son conseiller stratégique parmi les plus extrémistes. Donc, rien de solide, a priori, comme source. Question, Donald Trump, il cherche à faire diversion sur de nouveaux embarras liés à son équipe, Philippe Moreau-Desfarges, notamment le ministre de la Justice.
Cher Fabrice Lundy, je vais me permettre une comparaison un peu choquante.
Allez-y, pas trop choquant quand même.
Je vais comparer Donald Trump et Hitler.
Voilà.
C'est-à-dire que nous sommes au début 1933 en Allemagne. On voit bien que Hitler doit asseoir son pouvoir alors que ce pouvoir est encore incertain. Donc il faut faire des coups. Et il faut véritablement montrer aux adversaires qu'ils ne sont rien. Et je pense que l'opération concernant les écoutes, c'est la volonté de casser complètement l'adversaire et de s'imposer. N'oubliez pas que la présidence Obama est pour le moment très contestée. Donc il faut qu'il consolide cette présidence. Et l'un des moyens de consolider cette présidence, c'est de confirmer cette décision. C'est l'affaire du décret d'interdiction de venir aux États-Unis de certains
pays musulmans.
Ouais, exactement. Premièrement. Et deuxièmement, c'est de cogner l'ancien rival, c'est-à-dire Barack Obama.
Et il a vite abandonné les habits qu'on pensait qu'il avait finalement retrouvés, les habits de président, Frédéric Ansel, au moment du discours du Congrès, il y a une dizaine de jours, 15 jours, je ne sais plus exactement quand.
Malheureusement, ce discours apparaît finalement comme non seulement minoritaire, mais pratiquement anecdotique sur l'ensemble de ce qu'il a dit et fait depuis son investiture fin janvier. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'il n'a pas retrouvé les habits de président. Il a retrouvé ceux de candidat. C'est le contraire, si vous voulez. Pendant quelques jours, et notamment au cours de ce discours au Congrès, devant le Congrès, là, il avait les habits d'un véritable président. Avant et après, il ne les a pas réellement. Et j'ose espérer qu'il ne brûlera pas le Reichstag. C'est-à-dire qu'il n'ira pas jusqu'à affaiblir, pour reprendre évidemment
soyons prudents quand même dans la comparaison entre l'un et l'autre. Philippe, on est d'accord.
J'ose espérer qu'il ne brûlera pas ce qui aujourd'hui fait l'une des très grandes forces des États-Unis, c'est-à-dire la continuité de l'État démocrate.
Tout juste.
Un président qui a été battu ou qui n'a pas pu se représenter ne porte jamais, ne conteste jamais la politique d'un successeur, et celui qui est arrivé au pouvoir évite de cracher sur ce qu'a fait son prédécesseur. Ça s'est vu à 2-3 reprises, mais c'était extrêmement rare. Et là, nous sommes dans une situation d'abord géopolitique mondiale, mais aussi interne, avec effectivement un président qui a été mal élu, en réalité, avec une minorité de voix, et puis qui rencontre une opposition extrêmement dure, et on l'a encore vu même au Congrès, en dépit de son discours assez présidentiel. Eh bien, c'est maintenant qu'il continue effectivement à faire des coups. Et ça me paraît dangereux du point de vue même de la crédibilité des institutions
démocratiques. Sa priorité, asseoir son pouvoir, montrer aux élites qu'il existe et qu'il est le patron.
Ouais. À propos d'écoute, de cyberguerre, on en parlait tout à l'heure à propos de la Corée du Nord, c'est Wikileaks qui a révélé donc en milieu de semaine près de 9000 documents émanant a priori de la CIA, des outils considérables, un arsenal massif de cyberespionnage, donc eh bien pour faire de l'espionnage de masse. Voilà, la CIA qui disposerait de 1000 virus, des chevaux de Troie, qui pourrait prendre le contrôle de n'importe quel appareil, des smartphones, toutes catégories confondues, des Apple, des Google, bien sûr, des objets connectés, des voitures notamment, des téléviseurs. Alors bon, il n'y a pas de confirmation bien sûr, il n'y a pas d'authentification non plus. Qu'est-ce que ça dit l'un et l'autre? Il y a Philippe Moreau-Desfarges, Frédéric Ancel, de la CIA et de ses intentions et de façon générale des grandes agences de renseignement internationales.
Ça nous dit deux choses terribles. C'est que la CIA ou les services secrets n'hésitent jamais à se comporter comme des docteurs Frankenstein ou comme des apprentis sorciers. Donc ils sont prêts à tout faire. Et avec une chose terrible, c'est qu'à un moment donné, tous ces trucs qui ont été inventés et qui sont terribles vont être pris par l'ennemi. À un moment donné, l'ennemi va les utiliser. C'est l'histoire des drones. Nous étions convaincus qu'on pouvait faire la guerre sans mort avec les drones. Simplement, les drones, maintenant, ils sont plus seulement américains ou occidentaux. Les drones,
ils sont en main de l'État islamique, notamment. Frédéric Ancel.
Oui, et ça dit aussi à quel point Orwell a été extraordinairement visionnaire
bien
sur deux points.
Sur
la novlangue. Aujourd'hui, on appelle ça les faits alternatifs. Pardon, mais c'est la novlangue. Ça, c'est terrifiant. Et deux, sur la capacité technique d'à peu près n'importe quel pouvoir, d'un pays évidemment avancé aujourd'hui, de manipuler tout, enfin, peut-être pas tout ou partie, mais en tout cas une partie de sa propre population, sans parler même évidemment de l'adversaire. Et ça, sur le plan technique, je ne vois pas très bien comment on pourrait revenir en arrière. C'est ça qui est effrayant.
Frédéric, avec le pire, c'est que quand tu dis n'importe quel pouvoir, ça peut être aussi l'État islamique ou un mouvement terroriste, mais pas seulement un grand État.
La cyberarme, c'est une arme asymétrique, finalement, très efficace pour ceux qui veulent affaiblir peut-être les grandes puissances. N'empêche, on est rentré ou pas dans l'ère de la cyberguerre, Frédéric Ancel, Philippe Moreau-Desfarges, on montre souvent du doigt la Russie. Bon, l'affaire de la NSA, des révélations de WikiLeaks montrent que les États-Unis également sont à la manœuvre et personne n'en doutait. La France également, qui s'est dotée d'un cyberbataillon également. La Chine, n'en parlons pas. Frédéric.
Cyberguerre, oui, mais en tant que moyen. Ce n'est pas une fin en soi. C'est un outil. Un drone, c'est un outil pour faire la guerre. Ces armes-là, ces virus-là, sont un outil. Un missile, c'est un outil. Un arc à flèche, c'est un outil. À la fin des fins, pour disposer d'une véritable souveraineté, ce qui correspond quand même au béaba de la puissance géopolitique, il faut des hommes avec deux yeux, deux bras, deux jambes et de quoi tenir le territoire. Et ça, j'allais dire, Dieu merci, si c'est presque rassurant, on ne le fait pas quand même qu'avec des virus, des drones et des ordinateurs.
Je suis tout à fait d'accord avec ce différent. Ça n'est qu'un outil. Et s'il y a une guerre, c'est pas la cyberguerre, ça serait une guerre totale plutôt entre des idéologies ou des visions ou des États ou des nations. C'est ça le problème. À nouveau, la cyberguerre, c'est un outil au service par exemple de la Russie ou d'un autre État.
La cyberguerre pourrait avoir lieu et sous quelle forme? Là, quand on voit par exemple la CIA est capable de prendre le contrôle peut-être d'une voiture connectée, peut-être de la précipiter contre un mur, par exemple.
Ce qui est très dangereux dans ces expansions cyberguerres, c'est qu'on croit que cette situation de lutte autour des moyens informatiques est une guerre. Non, comme on a parlé de guerre contre le terrorisme. Aujourd'hui, non, nous ne sommes pas quand même dans une situation de guerre, heureusement, mais demain, s'il y a une guerre réelle entre des États-Unis et la Chine, l'informatique, l'outil d'informatique sera un outil fondamental. Mais là, parler aujourd'hui de cyberguerre, je ne crois pas qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a l'utilisation des moyens informatiques pour déstabiliser l'adversaire. Mais ce n'est pas une cyberguerre.
Oui, je dirais qu'il y a peut-être des cyberbatailles, cyber-coups de force.
Voilà,
effectivement, si, à Dieu ne plaise, il devait y avoir un prochain conflit de haute intensité, oui, bien sûr, ces cyberbatailles seraient utilisées, mais j'allais presque dire, dans le cadre d'un théâtre d'opération comme il y en a d'autres. C'est un théâtre d'opération comme un autre, au fond, maintenant.
Le contrôle d'une tourelle de char, par exemple, d'un casque de vision, d'un combat de... Tout est électronique, finalement, c'est ça. C'est une arme comme une autre, c'est ce que vous voulez dire.
C'est une arme comme une autre, avec...
Parce qu'on avait quand même vu à une époque la Russie qui avait essayé d'affaiblir l'Estonie, la Géorgie, l'Ukraine, en lançant de véritables raids électroniques contre ces démocraties dans les années 2008.
C'est vrai, mais je crois me souvenir que ça avait commencé entre l'Iran et Israël.
Oui, aussi.
Pour reprendre votre exemple, il faut finir par envoyer les chars. On commence par les moyens électroniques, puis à un moment donné, il faut, comme l'a dit Frédéric, il faut envoyer des chars et des soldats.
Bon, on va continuer 7 jours dans le monde sur BFM Business, à la télé, à la radio, vous savez, tous les week-ends, on va retrouver Frédéric Ancel, on va retrouver Philippe Moreau-Desfarges, et on redémarrera avec les délicatesses du président turc Erdogan vis-à-vis de l'Allemagne et ses pratiques nazies, voilà, c'est de très bon goût, et puis le recul de Daesh qui se poursuit, donc, que ce soit en Syrie et à Mossoul, on revient vite.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et on revient donc 7 jours dans le monde, retour sur l'actu internationale de la semaine sur BFM Business, à la télé, à la radio, toujours avec Frédéric Ancel, qui est professeur de relations internationales à Paris Business School, à Paris, à Sciences Po Paris, et qui vous propose Géopolitique de la Nation France, avec son maître en géopolitique, Yves Lacoste. Philippe Moreau-Desfarges, bien entendu, est toujours avec nous, chercheur à l'IFRI, auteur de la géopolitique pour les nuls en poche. Alors, pour redémarrer... La colère allemande, oui, à la hauteur des mots. Et je vous explique. Vous savez que le 16 16 avril, dans un mois, les Turcs vont s'exprimer lors d'un référendum pour ou contre le renforcement des pouvoirs du président, un pouvoir présidentiel à écrire dans la Constitution. Référendum taillé sur mesure, évidemment, par et pour le président Erdogan. Alors les Turcs qui vont s'exprimer, les Turcs de Turquie, mais aussi d'ailleurs, et notamment les 3 millions de Turcs qui vivent en Allemagne. Seulement voilà, officiellement pour des raisons de logistique ou des raisons de sécurité, de nombreuses municipalités allemandes ont annulé des meetings électoraux pro-Erdogan où devaient assister des ministres turcs qui auraient fait le déplacement de Ankara dans ces villes allemandes. Ce qui a fait bondir Erdogan, il était en meeting dimanche dernier à Istanbul dans un stade.
Plusieurs de mes amis m'ont déjà parlé du nazisme. Maintenant, je peux en parler. Je pensais que le nazisme était fini en Allemagne. Il s'avère que ça continue, de manière simple et visible. Vous dites croire en la démocratie, puis vous empêchez nos ministres de venir chez vous. Pourquoi êtes-vous remonté comme ça ?
Voilà, pratique nazie, carrément. Alors, colère évidemment de Berlin, qui juge les propos inacceptables, hein, Angela Merkel. Ces comparaisons doivent cesser. C'est très grave comme propos, Philippe Moreau-Desforges. Prenons le temps, allez-y.
Erdogan a dérapé, on est d'accord, et ce qu'il a dit est inacceptable, on est d'accord. Simplement, ce que je propose, c'est de prendre un peu de distance et de regarder le problème de la Turquie d'Erdogan. Voilà un État qui avait réussi, voilà un État qui était un pôle de stabilité. Et cet État, et c'est ça qu'il faut dire, n'a plus d'espoir. Pourquoi ? D'un côté, la porte de l'Union européenne s'est refermée. Bon, il n'y a plus de chance que la Turquie. Et de l'autre côté, le Moyen-Orient est en flamme.
La guerre.
Et,
ouais.
Et au cœur de ce Moyen-Orient en flamme, le problème kurde. Donc il y a un homme, si vous voulez, et c'est ça qui est très dangereux, qui est dans une fuite en avant, et son propos est totalement condamnable. Mais néanmoins, en diplomatie, on est obligé de gérer ce genre de problème. On est obligé, et c'est clair que la Turquie, qui était un facteur d'instabilité au Moyen-Orient, devient un facteur d'instabilité. Et il faut réfléchir au-delà de l'indignation que suscitent les propos d'Erdogan.
Pour une fois, je ne vais pas être du tout d'accord avec Philippe. Je pense que Erdogan n'a jamais été une solution, ça a toujours été un problème. Il le montre. Le Moyen-Orient est à feu et à sang, ce n'est pas de sa faute. Il a quand même été extraordinairement complaisant, sinon complice, ouais. Avec le régime génocidaire, authentiquement génocidaire de Daesh. Ouais. 2. 3. Ça a toujours été un négationniste du génocide des Arméniens.
Tout juste 1904.
4. Il n'a pas dérapé, car Erdogan a toujours été un islamiste. Il a toujours été anti-européen. Pendant des années, la Turquie d'Erdogan, j'allais presque dire, a fait semblant de vouloir continuer à négocier avec l'Europe. En réalité, ils ont négocié à coups d'épée de Damoclès, notamment sur le chantage aux migrants, j'aimerais quand même le rappeler, et il a fallu les payer pour qu'ils ferment
quelques milliards,
leur porte. Et on est systématiquement sur ce genre de coup de force. Alors qu'il souhaite assurer son propre pouvoir, encore une fois, comme on le disait, dans une certaine mesure avec la Corée du Nord, à l'intérieur, peut-être, mais la Turquie aujourd'hui qui n'avance plus, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Philippe, c'est quand même très largement de son fait, du fait d'Erdogan. Autrement dit, j'allais presque dire que c'est le pompier pyromane qui, en plus de ça, se permet d'être particulièrement ignoble, car la comparaison avec l'Allemagne nazie est simplement ignoble et inadmissible, inqualifiable.
Bien entendu.
Une phrase, il est quand même élu par les Turcs.
Ouais, on revient.
Oui,
on revient à ce qu'on se disait tout à l'heure sur d'autres pays.
Sur d'autres pays en 1933. Oui, mais ce n'est pas une raison pour qu'on puisse l'accepter. Et encore une fois, sur l'analyse, je pense qu'Erdogan est bien davantage un problème et un problème grave qui a contribué, je ne dis pas qu'il l'a fait, mais qui a contribué au chaos de son pays et au chaos des frontières de son pays, notamment kurdes.
Qu'est-ce qu'on fait?
On prend des sanctions. Si je suis, et je ne suis pas, je ne serai jamais.
Oui, mais là, oui, vous voyez, mais
Madame
en même temps.
Merkel, écoutez, l'Allemagne a suffisamment, tout de même, c'est le moins qu'on puisse dire, a suffisamment de poids et de pouvoir vis-à-vis, notamment sur le plan économique, vis-à-vis de la Turquie, pour ne pas se borner à qualifier d'inacceptable quelque chose qui, par ailleurs, ne serait toléré par personne.
Bien entendu, vous avez raison, Frédéric Ansel, surtout quand on voit la liste des contentieux qui s'accumulent entre la Turquie et l'Allemagne. J'en ai listé quelques-uns. Les critiques allemandes après les purges opérées en Turquie. Qui, après la tentative du putsch de l'été dernier. Critique d'Ankara qui accuse Berlin de jouer la carte du non au référendum, en refusant donc des meetings à ses ministres. Incarcération en Turquie du correspondant germano-turc de Die Welt pour officiellement propagande terroriste. La Turquie aussi qui accuse l'Allemagne d'héberger des sympathisants du PKK. on a cette affaire donc d'accusation de pratique nazie. Mais en même temps, on voit Angela Merkel qui condamne, certes, mais qui temporise, mais qui prône l'apaisement, parce qu'elle sait très bien qu'entre la Turquie et l'Allemagne, il y a des intérêts communs. Et on revient peut-être notamment sur la question des migrants, Philippe Rodefort.
Absolument, il y a la question des migrants qui peuvent être un facteur de trouble en Allemagne. Mais il y a une dynamique géopolitique. C'est qu'on voit bien que derrière Erdogan, il y a au fond cet homme, consciemment, inconsciemment, se dit « je vais faire une coalition de tous ceux qui en ont assez de l'Occident ». La Russie. La Chine, etc. On va jouer l'Iran, on va jouer cette carte-là. Et c'est pour ça que Mme Merkel est très prudente. C'est
qu'elle a peut-être peur aussi de voir importer sur son territoire certains conflits, les pro et les anti-Erdogan, les Turcs et les Kurdes, etc.
Sachant que le président Erdogan lui-même était venu à plusieurs reprises en Allemagne dire, c'était ses propres termes, qu'il était criminel de s'assimiler à la nation allemande. Enfin, qu'est-ce que ça signifie lorsque vous êtes allemand et que vous entendez ça? Donc, il joue réellement avec le feu. C'est lui qui le fait, c'est pas Mme Merkel.
Le référendum, qu'est-ce que ça va donner le 16 avril?
Malheureusement, et là je suis en accord avec Philippe, je vais même plus loin, depuis 2002, il faut bien reconnaître que l'AKP, donc parti islamo-nationaliste et de plus en plus islamo et nationaliste aussi, a toujours remporté les élections, pire que ça.
Sauf une fois.
Au premier tour, sauf une fois. Sauf une fois.
Il y a deux ans,
il l'a remporté, c'était pas au premier tour.
Ils avaient refait le scrutin quelques années plus tard.
Donc je pense que la majorité des Turcs souhaite effectivement cette posture ultranationaliste et islamiste.
Oui, alors Erdogan qui se trouvait ce vendredi au Kremlin, rencontre en haut lieu, avec Poutine, pour évoquer cette fois la guerre en Syrie. La veille, c'était Benjamin Netanyahou qui se trouvait justement à Moscou. Moscou, toujours au centre des discussions donc autour de la Syrie, Frédéric Ancel.
Oui, et ça signifie deux choses. D'abord, la volonté, la capacité de la Russie de revenir dans une certaine mesure, parce que la Syrie, c'est quand même pas tout le Moyen-Orient. Mais ça, c'est une volonté et une capacité qu'on connaissait, mais là, il le démontre. Deux, je rappelle et j'insiste sur le fait que la Russie est forte en Syrie de la faiblesse qui a été celle d'Obama. Il y a 3 ans, il n'y a pas un chasseur bombardier russe en Syrie. Ça, et après la crise sur laquelle on va peut-être pas revenir, mais de la fameuse ligne rouge sur laquelle s'était assis son Obama, les Russes sont rentrés en force. Deux. Et trois, n'oublions pas qu'une fois de plus, nous traitons l'après-crise ou l'après-guerre dans un État arabe se traite par et avec des États non-arabes. Nous avons aux commandes, un, la Russie, vous l'avez très bien dit, deux, la Turquie, c'est vrai, trois, l'Iran. Encore une fois, aucun État arabe.
Avec une remarque, pour moi, la Russie n'est pas si forte que ça en Syrie, car elle ne sera pas capable de régler le problème syrien. Parce que la force, c'est d'être capable de régler le problème.
Et il est venu dire quoi, Netanyahou, à Poutine, à propos de la Syrie, cette semaine, à Moscou? Frédéric Ancel.
L'espace aérien, on le partage.
Oui.
C'est d'ailleurs ce qui se passe depuis 2-3 ans, de façon tout à fait... Et nous allons fonder de nouvelles relations économiques, ou augmenter plus exactement, accroître le dispositif de nos relations diplomatiques et technologiques et économiques de façon générale, qui était déjà, on va dire, assez bien avancé, au regard même de ce qu'Obama a risqué de nous faire pendant 8 ans. Car les Israéliens, d'ailleurs finalement à tort, mais les Israéliens ont eu très peur d'un retrait américain, pas seulement du Moyen-Orient, mais de leur propre proximité, d'eux-mêmes finalement. Et je rappelle que le ministre de la Défense n'est autre que M. Lieberman, russophone, né en Moldavie, qui est lui-même ami proche, et ce n'est pas du mytho comme disent les jeunes, puisqu'on voit bien que Poutine accepte tout à fait ce statut, très proche de Poutine, et qu'il y a un peu plus d'un million de russophones, de juifs russophones, originaires d'ex-URSS, en Israël. Et de ce point de vue-là, les Israéliens n'ont jamais cessé de tenter de se rapprocher de Poutine. Et je rappelle que le premier voyage de Poutine en Israël au milieu des années 2000 s'était très bien passé et qu'il avait à ce moment-là accordé la possibilité à Israël de propulser un satellite espion à partir de Irkoutsk pour espionner qui, je vous le donne en mille, l'Iran.
Non, je voudrais proposer une autre lecture. Je pense que Netanyahou, en se rendant à Moscou, prend quelque part acte de l'affaiblissement des États-Unis au Moyen-Orient.
C'est possible, voilà. C'est la suite de ce qu'on se dit dans 7 jours dans le monde chaque semaine, c'est comme ça. Oui, la Syrie, on y revient, où l'étau se resserre contre l'État islamique à Raqqa. La route entre la province de Deir ez-Zor et Raqqa, elle est coupée par les forces démocratiques syriennes soutenues par les États-Unis. Ce sont des forces démocratiques syriennes composées à la fois d'Arabes et de Kurdes, moite-moite à peu près. Les États-Unis qui vont quasiment doubler leur présence militaire dans le nord de la Syrie, en passant de 500 hommes à presque 1000 hommes. Les Américains s'engagent un peu plus, ils veulent pas laisser la place aux autres, à moins que ça soit trop tard.
Nouvelle contradiction de Trump. D'un côté, Trump veut se désengager. Si vous voulez, il y a quelque chose de... En outre, la bataille de Raqqa, vous savez, ça risque d'être une victoire à la Pyrrhus.
Tout juste, oui.
Exactement comme Mossoul. Parce que une fois que vous prenez ce genre de ville, si chaque jour vous avez un attentat à l'explosif, au camion piégé ou au kamikaze, vous ne pourrez jamais sérieusement convaincre qui que ce soit que vous détenez réellement la ville et le territoire.
Raqqa, qui avait été pilonnée par l'aviation française au lendemain du Bataclan, des massacres de Paris donc de fin 2015, hein. Objectif essentiel selon Paris, c'est ce qu'expliquait notre ami Jean-Dominique Merchet dans l'Opinion cette semaine. Question, est-ce que la France va envoyer des troupes sur place comme en Irak où il y a à peu près 500 militaires français, conseillers, forces spéciales, on ne sait pas exactement.
Oui, la réponse est oui, si ça ne dépasse pas ses effectifs. Voilà. D'autre part, si ce sont à la fois des servants d'une artillerie très puissante, notamment les fameuses batteries Kaiser qui fonctionnent déjà très bien en Irak, si c'est le commandement des opérations spéciales pour éventuellement aller repérer où se trouvent des gens, des djihadistes d'origine française,
tout simplement.
Donc oui, je pense que c'est quelque chose que la France peut et vraisemblablement doit faire.
Oui, pour la Turquie, on y revient d'un mot, c'est toujours l'avancée des Kurdes en Syrie qui inquiète, d'autant qu'un rapprochement apparemment entre Kurdes et régime de Bachar al-Assad qui semble s'esquisser dans le nord-ouest de la Syrie, dans la région d'Al-Bab. Un mot, pourquoi ce rapprochement, Frédéric Ancel ?
Le cauchemar de la Turquie. Le cauchemar de la Turquie. Ouais. Le cauchemar turc, de voir l'avènement d'une nation, allez, on va dire pan-kurde, d'une part, et d'autre part, le cauchemar du régime de Damas et des Kurdes face à l'avancée, précisément, de la Turquie.
Ouais, Mossoul également, ou Daesh recule, hein. Les forces de sécurité irakiennes qui tentent de progresser vers l'ouest de la ville, de l'autre côté du Tigre, hein, ont repris des bâtiments administratifs. Le musée se rapproche de la vieille ville alors que des dizaines de milliers de civils continuent de fuir. Mossoul va être reprise, hein. Frédéric, bien sûr, ça va être dur.
Non, mais non seulement ça va être dur, mais encore une fois, moi, ce que je crains, c'est l'après-guerre officielle.
La politique.
On plante. Ouais. Alors,
la reconstruction
bien sûr,
politique. Hein.
Non seulement la reconstruction politique, déjà, le tenir la ville, sans subir tous les jours ce que les Américains, par exemple, ont subi sur différents théâtres d'opérations, notamment au Moyen-Orient, c'est-à-dire des attentats qui ne vous permettent pas décemment de dire nous tenons le territoire. Deux, sur le plan politique, ça, c'est effectivement fondamental. Et je le rappelle, pourquoi il a été aussi long d'engager quelques dizaines de milliers d'hommes autour de Mossoul? Parce que la majorité de ces hommes sont des chiites irakiens. Mossoul est une ville sunnite. Ils vont pas être très bien accueillis. Deux, les Kurdes sont kurdes et pas arabes. C'est une ville arabe. Et trois, ont été engagés, voilà, deux ans, enfin, j'ai presque dire, ont été plutôt débauchés pour participer à la coalition à Mossoul, les tribus de l'ouest irakien, donc du désert d'Al-Anbar. Mais ces gens-là sont par définition des bédouins et les gens de Mossoul sont des citadins. Autrement dit, ça paraît fou, mais personne n'était très pressé de récupérer Mossoul parce que, en réalité, c'est une ville arabe sunnite et dont je rappelle que la grande majorité a été sinon favorable ou est sinon favorable à Daesh, en tout cas patiente. Il ne faut quand même pas nous raconter que 4 000, 5 000, 6 000 combattants ont tenu 1 million
d'habitants
avec des couteaux et des fusils.
Pendant 3 ans.
Il y a au moins une partie de la population qui aura été favorable à Daesh.
Philippe Morodéfer de l'IFRI.
La question, c'est l'avenir de Daesh. C'est-à-dire, Daesh est intéressante parce que ça reste une entité en métamorphose. C'est-à-dire que Daesh, il y a quelque temps, voulait être un État. Daesh, pour le moment, n'est pas devenu un État, c'est-à-dire une entité ancrée dans un État. Donc, est-ce que Daesh va disparaître ou se métamorphoser en autre chose? Il est probable qu'il y aura plutôt une métamorphose en autre chose.
En tout cas, le pseudo calife al-Baghdadi aurait fui Mossoul pour se réfugier dans le désert, selon les Américains, le long de la vallée de l'Euphrate, protégé par des tribus sunnites. Tout faire, bien se cacher pour éviter le même sort que Oussama Ben Laden?
Surtout, bien sûr. Bah oui. Bien sûr, car la pédagogie de la défaite, comme j'aime bien l'appeler, est très importante.
Bah oui. Hein,
que dans le monde entier, notamment dans nos banlieues d'Occident, on voit enfin les prisonniers de Daesh, ça signifie peut-être pour des croyants qu'Allah n'est plus nécessairement de leur côté. Et d'ailleurs, regardez à quel point on a du mal à faire des prisonniers, parce qu'évidemment, ces gens-là se suicident avant qu'on les attrape, notamment dans les faubourgs de Mossoul. Alors, a fortiori, le porte-parole, le nouveau calife, évidemment, de Daesh, bien sûr qu'il se cachera.
À suivre sur BFM Business, à la télé, à la radio, 7 jours dans le monde, qui va reprendre l'Europe avec cette percée historique du Sinn Féin, les nationalistes irlandais en Irlande du Nord. Et puis Donald Tusk reconduit donc à la tête du Conseil dans l'Europe sans le soutien de son pays, la Pologne. Allez savoir pourquoi. À tout de suite.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Bon, j'ai l'impression que ça a encore passé extrêmement vite. 7 jours dans le monde ce week-end sur BFM Business. C'est pas fini, hein. On va parler de l'Europe toujours avec Frédéric Ancel, avec Philippe Moreau-Desfarge. Alors que le Royaume-Uni, eh bien, se prépare tant bien que mal dans le Brexit, bien sûr, l'Irlande du Nord, donc territoire britannique, hein, qui votait le week-end dernier pour son assemblée régionale. Et surprise, si les unionistes du DUP, eh bien, terminent en tête avec 28 sièges sur 90, hein, de façon générale, les autres partis unionistes, hein, tous les partis unionistes ont reculé. Eh bien, juste derrière, avec 27 sièges, pointent les nationalistes du Sinn Féin, partisans, eux, d'une réunification avec le Sud, avec l'Irlande. Hein. Maintenant, grosse difficulté, il va y avoir de longues discussions qui vont démarrer pour constituer l'exécutif nord-irlandais. En quoi est-ce un tournant, Philippe Moreau-Desfarge ?
Il n'y a pas de surprise. Hein. C'est la conséquence du Brexit. N'oubliez pas que la question de l'Irlande du Nord a été réglée grâce à l'appartenance du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'Union européenne, et que cet accord avait été béni par l'Union européenne et soutenu par l'Union européenne, premier point. Deuxième point, l'Ulster, l'Irlande du Nord, a largement bénéficié de cet accord en termes économiques. C'est une région pauvre qui va mal, et c'est clair que l'accord était une bonne chose. Le retrait du Royaume-Uni pose le problème du lien entre l'Ulster et l'Irlande. Et il est normal que les catholiques d'Irlande du Nord
sont de plus en plus nombreux, en plus.
Exactement.
Ça, c'est intéressant aussi. Il y a un changement démographique. Catholique plus important que les protestants, désormais.
Donc, il est normal que les protestants d'Irlande du Nord, ce sont des Britanniques, et un peu en déclin. Donc, il est normal que les catholiques d'Irlande du Nord se rallient autour du parti indépendant.
Le Sinn Féin veut rester, en effet, dans l'Union européenne, quitte à rejoindre l'Irlande, et tandis que les unionistes, eux, ils disent, on va suivre comme le Royaume-Uni.
Vous avez dit, Pavry, une chose très importante, c'est que le Sinn Féin veut réunir les deux parties d'Irlande, l'Ulster et l'Irlande. Et effectivement, le Brexit appelle la réunion de l'île pour bâtir, dirons, la paix ou la prospérité en Irlande du Nord. Ça, les Britanniques payent le Brexit, c'est très bien.
Dans tous les esprits, ce dont on parle aussi, est-ce qu'il va y avoir un jour une frontière, une barrière entre l'Ulster et la République d'Irlande? Non, a priori, quel que soit le cas, quand même.
Parce que si le Brexit, comme vous l'avez dit vous-même, l'Ulster, l'Irlande du Nord, fait partie du Royaume-Uni.
Oui, donc, j'entends bien. Est-ce que les Irlandais vont l'accepter, vont le tolérer, ça? Même ceux qui sont en faveur de la sortie de l'Union européenne.
Je pense qu'ils vont être obligés de le tolérer, parce que ça va être un levier. N'oubliez pas, je pense que l'Irlande n'a pas totalement renoncé à une réunification. À nouveau, il faut que le Brexit ait un coût. Et je sais rien ce que veut dire ce vote du Sinn Féin en faveur du Sinn Féin. Ça veut dire, vous voulez quitter l'Union Européenne, eh bien, assumez-en toutes les conséquences. Ah. Et notamment, le risque d'une frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord.
Avec un taux record de participation depuis les accords du Vendredi Saint 1998, qui avait mis fin donc à ces attentats, cette guerre 3000 morts pendant de longues dizaines d'années. Oui, Philippe Moreau-Desfarge et puis Frédéric Ancel après.
Nouvelle. C'est un pied de nez au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni,
Ce qui fait un pied de nez au Royaume-Uni, c'est une bonne nouvelle, hein,
Très bien, Philippe.
Frédéric Ancel.
Il peut peut-être y avoir une, comme ça se produit souvent, non pas une solution du tout ou rien, mais une forme de zone, alors peut-être pas franche, mais qui serait hybride et qui permettrait
cohabitation, coexistence,
d'arrondir les angles. Maintenant, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Les Britanniques devaient nécessairement considérer, enfin les citoyens, les sujets de Sa Majesté devaient considérer en votant toutes les conséquences qui allaient advenir après leur vote.
Les protestants d'Irlande, les unionistes. Je pense souhaite le durcissement de la frontière entre les deux Irlandes, parce que ça justifiera le maintien avec le Royaume-Uni. Les unionistes de l'Ulster ont joué toujours un jeu très dur, anti-catholique, anti-Irlande, ils payent aussi ça, leur politique d'isolement.
Bon, c'est pas fini ce conflit irlandais, au travers du Brexit, bien sûr. On reste sur la scène européenne avec Donald Tusk, qui est reconduit à la tête du Conseil européen par les dirigeants du continent. Hein. Remerciement, c'était jeudi après-midi, après l'intervention donc de Joseph Muscat, Premier ministre de Malte, qui cédait la parole à Donald Tusk, donc toujours président du Conseil européen, Donald Tusk.
Thank you very much, Joseph.
Merci beaucoup, Joseph. Et tout d'abord, merci à tous pour votre confiance en moi, pour votre grand soutien dans ces circonstances exceptionnelles, j'en suis conscient. Mais surtout, merci pour cette démonstration de solidarité. Et comme vous le savez, la solidarité a toujours été importante dans ma vie personnelle et politique.
Merci à tous, c'est ce que j'ai entendu de la part de Donald Tusk. Oui, il a été reconduit par les dirigeants européens à la tête du Conseil de l'Europe. 27 pays sur 28 qui l'ont soutenu, sauf un, bah oui, il en manque un. Oui. La Pologne, justement, dont le gouvernement est dirigé par les nationalistes conservateurs de droit et justice. Donald Tusk, c'est l'ancien Premier ministre libéral polonais. Qu'est-ce qui se passe, Philippe Moreau-Desfarges? Parce qu'apparemment, la Première ministre polonaise, elle l'accuse d'avoir failli à sa neutralité concernant certaines réformes du pouvoir et qualifiées par Bruxelles d'atteinte à l'état de droit. Donc la Pologne a dit, il a violé son devoir de neutralité, on le sanctionne. C'est incroyable,
non,
ça.
Attendez, à l'heure actuelle, il y a un bras de fer extrêmement dur entre la Pologne et l'Union européenne. Et donc,
La Pologne parle d'une Europe sous le diktat de Verlaine.
La Pologne, en ce moment, comme toujours, elle a une espèce de fièvre nationaliste. Enfin, pas tous les Polonais, mais une partie des Polonais. Vous voyez, la Pologne est un pays, comment dire, n'oubliez pas que la Pologne a disparu de la carte de l'Europe pendant un siècle et demi. Hein. Et les Polonais certains Polonais se sont persuadés qu'ils se sont libérés par lui-même. En fait, la Pologne, elle a été rayée par Hitler et Staline, elle a été recréée par la faveur de Staline. Bon, ça, les Polonais ne veulent pas voir cette histoire. Donc, ils sont la grande nation catholique, la grande nation rédemptée. Il est temps que la Pologne ait une vision plus claire de ce qu'elle est. Et donc, il y a un vrai bras de fer entre l'Union européenne et la Pologne autour de la personnalité de Donald. Voilà, on verra comment ça se donne. Mais c'est vrai que la Pologne a un travail à faire sur sa propre histoire.
Ouais, ça va être long, c'est long déjà. Frédéric Ancel.
Et de façon plus générale, une partie de l'Europe orientale est vent debout contre ce qu'elle appelle régulièrement le diktat, soit de l'Union européenne, soit de l'Allemagne. Je pense notamment à la Hongrie, qui connaît une poussée, depuis plusieurs années déjà, une poussée nationaliste extrêmement grave, voire fascisante,
Et on a vu encore cette semaine l'annonce des incarcérations systématiques des migrants qui seraient pris en situation illégale sur le territoire hongrois.
Voilà, je pense aussi à la Croatie ou à la Slovaquie qui ont des politiques très dures. Et effectivement, j'allais dire que l'un des clivages les plus durs, les plus graves, et qui n'est pas seulement un clivage technique, c'est effectivement l'affaire des migrants. Une grande partie de l'Europe centrale et orientale voit ceci comme une véritable menace de type identitaire, contrairement à ce que la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, dans une large mesure, voient. Et d'autre part, n'oublions pas la représentation de la Russie comme l'ennemi. Et ça, c'est vrai, bien sûr, pour la Pologne, ça a été très bien dit, pour d'autres pays d'Europe centrale et orientale, ce qui est tout de même moins le cas pour nous. Et là, vous avez un double clivage qui est extrêmement grave.
Un mot, ça sera le mot de la fin, Philippe.
La Pologne actuelle est prête à jouer le jeu entre l'Allemagne et la Russie en disant, au fond, la Russie, c'est peut-être pas si mal. Le cynisme de toute cette politique est frappant.
Nouvelle tension, en tout cas, au sein d'une Union européenne qui n'en avait pas besoin.
Et c'est un peu triste que la Pologne ne reconnaisse pas la dette qu'elle a à l'égard de l'Union européenne, qui est considérable quand on voit la modernisation qu'a connue la Pologne depuis son adhésion dans l'Union européenne.
C'est fini pour 7 jours dans le monde. Merci à tous. Merci à Frédéric Ancel, donc professeur de sciences de relations internationales à Sciences Po Paris, à Paris Business School. On le rappelle, la géopolitique de la nation France, co-signé avec Yves Lacoste. Et merci à Philippe Moreau-Desfarges, chercheur à l'IFRI, auteur notamment de la géopolitique pour les nuls, en livre de poche, toujours bien pratique pour partir en week-end, en vacances. C'est fini pour 7 jours dans le monde. Rendez-vous la semaine prochaine.
BFM Business, 7 jours dans le monde.